Bonjour à tous, bonjour chers élèves en classe de terminale qui passez le bac dans 21 jours. Bonjour à vos parents, que cette épreuve angoisse encore plus que vous-même. Et bonjour à tous les autres, sereins et curieux, qui vous réjouissez de voir défiler cette semaine 4 profs de philosophie pour proposer en direct un corrigé d'épreuve du bac philo. Je précise que mercredi et jeudi, les professeurs viendront accompagnés de leur classe de terminale et que les élèves auront la parole. Nous commençons aujourd'hui avec un texte de Rousseau qui s'interroge sur les conditions du bonheur. Pour être heureux, mieux vaut-il jouir ou se retenir ?
Je conçois deux manières d'arriver à la félicité. L'une en satisfaisant ses passions et l'autre en les modérant. Par la première, on jouit. Par la seconde, on ne désire point. Et l'on serait heureux par toutes deux s'il ne manquait à l'une cette durée et à l'autre cette vivacité qui constitue le vrai bonheur. Les routes pour arriver à ces deux états sont entièrement opposées. Il faut donc opter. Et le choix est aisé si l'on compare les effets de l'un et de l'autre. On ne saurait nier qu'un homme qui savoure à longs traits le plaisir et la volupté ne soit actuellement plus heureux et ne jouisse mieux des charmes de la vie que celui qui ne désire ni ne possède point. Deux choses me semblent pourtant rendre l'état du dernier préférable. En premier lieu, plus l'action du plaisir est vive, et moins elle a de durée, c'est un fait incontesté. On perd donc sur le temps ce qu'on gagne sur le sentiment. Jusqu'ici, tout serait compensé. Mais voici en quoi la chose n'est pas égale. C'est que le goût ardent des plaisirs agit d'une telle manière sur l'imagination qu'elle reste émue, même après l'effet du sentiment, et prolonge ainsi le désir plus loin que la possibilité de le satisfaire. D'où je conclus que la jouissance immodérée du plaisir est pour l'avenir un principe d'inquiétude. Au contraire, les peines d'un homme qui, sans avoir joui, n'a que quelques désirs à combattre, diminuent à mesure qu'il gagne du temps, et la longue tranquillité de l'âme lui donne plus de force pour la conserver toujours. Son bonheur augmente à mesure que celui de l'autre diminue.
Bonjour Florian Nicodème.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes professeur de philosophie au lycée Jacques de Cour à Paris et c'est vous qui allez nous proposer un corrigé de ce texte de Rousseau. Alors si on compare votre situation à celle de vos élèves, vous êtes à la fois à plaindre et à envier. À plaindre parce que vous avez 50 minutes pour proposer un commentaire de texte, enfin de moins en moins à mesure que je parle.
Et non 4 heures, effectivement.
Et non 4 heures comme c'est le cas des élèves le jour du bac. Mais à envier car ce texte, c'est vous qui l'avez choisi.
Exactement.
Ça change la donne.
Un texte magnifique, je trouve, un texte d'un auteur qui m'est cher à titre personnel.
Oui.
Et un texte aussi magnifique pour la préparation du bac, un texte qui est tombé au bac ES il y a quelques années et qui, en plus d'être un texte parfait pour un commentaire de texte, puisque son argumentation est extrêmement cadrée, extrêmement stricte, on peut vraiment utiliser une méthode pour le découper, pour le comprendre et pour en extraire la substance philosophique. C'est en plus, je trouve, un bon exercice de dissertation. Bon exercice de problématisation, de dissertation, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler.
Donc deux en un. Oui, exactement. Parce que rappelons que le jour du bac, l'élève a le choix entre trois sujets, deux sujets de dissertation et un texte à expliquer.
Exactement. Chacun des sujets étant sur un des grands chapitres hein, et il ne peut pas y avoir deux sujets sur le même grand chapitre.
Voilà, donc là, le grand chapitre, ce serait le bonheur dans ce texte.
Ici, voilà, c'est le chapitre qui s'intitule « La morale » dans lequel il y a bonheur, devoir et liberté.
Alors c'est un texte de Rousseau, mais un texte inconnu de Rousseau, enfin inconnu, beaucoup moins connu que ceux qui sont généralement étudiés. Il s'appelle « Mémoire à Monsieur de Mably ». Que faut-il savoir de ce texte pour bien le comprendre ?
Alors il s'agit d'un Rousseau très très jeune, c'est un texte rédigé à la fin de 1740, donc Rousseau a 28 ans, donc un jeune précepteur extrêmement désireux de bien faire, qui écrit un mémoire de 80 pages à Monsieur de Mably, dont il et le précepteur des enfants, au sujet de son aîné, pour lui réclamer un peu plus d'autorité paternelle, hein, et en profiter pour lui présenter son plan pour réformer son enfant. Bon, il racontera plus tard dans les confessions que ça a été un échec absolument abominable, hein, que les enfants ne l'écoutaient pas, qu'ils faisaient des erreurs en permanence, hein, qu'ils pleuraient avec eux, qu'ils les prenaient trop au sérieux dans leur raisonnement. Donc il me dit à un moment, de façon assez amusante, que parce qu'il était raisonneur, je les croyais raisonnables. Hein. Et donc Rousseau, ça a été une catastrophe. Le Rousseau éducateur a subi son premier revers. Mais au milieu de ce mémoire adressé à un enfant, au père d'un enfant en particulier, il y a un petit fragment, une digression sur le bonheur, qui, à mon avis, contient déjà beaucoup du Rousseau plus tardif et des magnifiques méditations sur le bonheur qu'on trouve dans les Mille, qu'on trouve dans la Nouvelle Héloïse ou bien dans la cinquième des Rêveries du promeneur solitaire. Donc il y a quelque chose là qui s'est joué une première fois à 28 ans et qui s'est développé ensuite, je crois.
Faut-il connaître le texte proposé le jour du bac pour pouvoir l'expliquer?
Non. Non, il faut donc bien voir que...
On peut tout à fait choisir un texte dont on n'a jamais entendu parler.
Absolument, c'est même une des conditions de l'épreuve. Hein. Il suffit de rendre compte de ce qu'il y a dans le texte. Les textes sont choisis, souvent donnés avec le nom de l'auteur, éventuellement le titre de l'œuvre, hein, mais sans indication supplémentaire. Quelques notes pour les mots difficiles ou les allusions historiques ou culturelles dont on ne peut pas présupposer que les élèves les connaissent. Hein. Mais globalement, on n'attend pas de connaissance de la doctrine de l'auteur. C'est précisé noir sur blanc tout en bas du sujet. Donc on peut se rassurer là-dessus. Le texte hein, est tiré d'une œuvre hein, d'un auteur situé dans une liste d'auteurs hein, qui sont considérés comme canoniques pour le bac. Hein, mais il n'y a absolument rien à savoir sur l'auteur. Donc pas de situation, pas de grandes introductions sur la doctrine de l'auteur. Hein. Mmh. Le texte, tout le texte, mais rien que le texte.
Alors comment on procède? Je suis un élève qui, le jour du bac, ouvre l'enveloppe et voit ce texte-là. Il est de deux sujets de dissertation que je choisis de ne pas prendre, pour des raisons qui m'appartiennent. Avant d'en arriver aux commentaires linéaires de ce texte-là, est-ce qu'il y a des conseils de méthode que vous avez à donner? Il faut le lire plusieurs fois.
Ah oui, alors le premier conseil, c'est de le lire plusieurs fois. En entier, sans rien écrire, en s'attachant les mains dans le dos s'il le faut, mais s'empêcher de fixer trop vite la compréhension du texte, parce que dans 80% des cas, quand on lit le texte trop vite, on se concentre exclusivement sur le début du texte, hein, et on oublie qu'un texte hein, prend son temps et que parfois, eh bien, l'essentiel est à la fin. Donc le lire plusieurs fois, être sûr d'avoir bien identifié son déroulement, d'avoir bien compris tous les mots avant de commencer à le travailler. Ça, c'est vraiment essentiel. Ensuite, le travailler toujours crayon à la main, pouvoir effacer ce qu'on a fait, parce qu'il n'y a rien de plus grave que de stabiloter un texte et de se rendre compte ensuite qu'on a pris un mauvais chemin. Donc, c'est beaucoup plus difficile de revenir en arrière à ce moment-là. Et puis, deux conseils vraiment très pratiques. La première, c'est d'avoir plusieurs feuilles de brouillon ouvertes, comme plusieurs dossiers un peu sous les yeux au moment où on travaille le texte. La première, pour faire une liste un peu bête et méchante, mais très utile, des concepts. Voilà, dans un texte de philosophie, il y a des tas de mots dont la compréhension est nécessaire pour bien comprendre le texte. Cette compréhension ne doit pas être présupposée de la part du correcteur. On doit au contraire expliciter tout ce qui est de l'ordre du concept dans le texte. Donc on fait une liste et puis on fait son travail de définition. Donc soit tout au début, soit à la fin, soit petit à petit au fur et à mesure qu'on comprend mieux les choses. Mais on sort du travail au brouillon avec une liste de tous les concepts définis correctement en cherchant des exemples pour les illustrer un peu mieux. Deuxième dossier à ouvrir, je pense, c'est un dossier sur le plan détaillé de l'argumentation du texte. Un texte de philosophie, c'est une petite mécanique extrêmement bien construite, normalement, surtout que les textes de Bach sont découpés en 15 lignes maximum, 15-20 lignes maximum. Donc, ce sont vraiment, on peut vraiment éviter toute redite, toute information qui parasite, disons. Et donc, il faut essayer de comprendre toutes les étapes de l'argumentation. Donc, il faut essayer de se faire un petit plan détaillé, ultra détaillé même, hein, où chaque idée sera comprise dans sa fonction. Alors, telle ligne, par exemple, est-ce que c'est l'annonce de la thèse? Est-ce que c'est un argument? Un morceau d'un argument? Parce qu'un argument peut avoir plusieurs temps. Est-ce que c'est un exemple? Est-ce que c'est une objection? Essayez d'identifier, au fond, ce à quoi sert chacune des phrases, chacune des idées avancées dans le texte. Hein, parce que c'est comme ça qu'on comprend, au fond, la démarche du texte.
Mais encore faut-il avoir identifié cette thèse?
Exactement. Ça, c'est le point suivant. Il faut absolument faire, à mon avis, un travail d'aller-retour hein, entre la compréhension de la démarche argumentative et l'identification de la thèse. À première lecture, on a une première idée de la thèse. Elle n'est pas forcément claire, elle n'est pas forcément suffisamment précise. Donc, avec cette thèse en main, on va chercher les premiers gros mécanismes.
Donc, la thèse, c'est de dire, en gros, ce texte a quelque chose à dire. Ce texte affirme une idée. Quelle est cette idée?
Exactement. La thèse, c'est en gros ce que l'auteur essaie de nous démontrer, dire. Ou ce dont il essaie de nous convaincre, ce qu'il essaie de nous vendre, si on peut le dire comme ça. Et ensuite, il y a toute une série d'arguments, d'exemples, d'objections, de fausses objections qui sont en fait des arguments, qu'il va utiliser pour nous amener à comprendre cette thèse. Donc cette thèse n'est pas forcément formulée dans le texte, ça arrive, ça c'est très bien. Mmh. Souvent, il y a des thèses explicites, hein, parfois des thèses implicites, parfois les deux, comme c'est le cas dans notre texte. On va le voir, il y a une thèse très explicite, puis une thèse plus implicite et un peu moins réjouissante, disons. Et puis, cette thèse, donc, c'est ce qu'il faut s'acharner à comprendre de plus en plus finement. Ne pas se dire, quelle est la thèse? Je l'écris et elle restera inchangée jusqu'à la fin de mon commentaire. Non, une thèse, ça se travaille, ça se précise, et ça se précise en comprenant l'argumentation.
On va prendre un cas particulier avec ce texte que l'on a entendu, Florian Nicodème, et qu'on va entendre à nouveau au cours de cette émission. On l'a sectionné de manière un peu artificielle, mais en suivant l'argumentation de ce texte, justement, pour pouvoir réentendre partie par partie. Avant peut-être de réentendre ce qu'on a appelé la première partie, vous avez peut-être un mot d'ensemble à dire sur ce texte ? Ou est-ce que vous voulez qu'on commence directement par...
On peut commencer directement.
Alors voici donc ce qu'on a appelé la première partie, une sorte de la présentation de l'enjeu du texte avant d'en arriver aux arguments.
Je conçois deux manières d'arriver à la félicité. L'une en satisfaisant ses passions et l'autre en les modérant. Par la première, on jouit. Par la seconde, on ne désire point. Et l'on serait heureux par toutes deux s'il ne manquait à l'une cette durée et à l'autre cette vivacité qui constitue le vrai bonheur. Les routes pour arriver à ces deux états sont entièrement opposées. Il faut donc opter. Et le choix est aisé si l'on compare les effets de l'un et de l'autre.
Il y a une vraie tension dramatique dès la première partie du texte, en fait dès les cinq premières lignes, Florian Nicodème.
Exactement, je pense que Rousseau ici condense en quelques lignes une problématisation extrêmement forte, bon, qui a une histoire avant lui, il n'est pas le premier évidemment à opposer la vie de modération et la vie d'excès, de démesure ou de jouissance, mais il le fait avec une netteté et une précision conceptuelle à la fois dans la formulation du problème et dans le protocole de résolution, la méthode de résolution qu'il propose. Alors, la première ligne montre très clairement le but, la félicité, ce qu'il appellera un peu plus loin le vrai bonheur, c'est-à-dire un état de satisfaction complète et durable de tous les désirs et de tous les besoins de l'homme, l'absence de manque, cet état peut-être idéal, peut-être illusoire, où il n'y a plus rien à désirer. Et avec le mot félicité s'introduit quand même l'idée également d'une satisfaction, d'une jouissance absolument durable. Et donc ça, c'est le but. Le but, que deux chemins peuvent permettre d'atteindre, mais deux chemins qui sont rigoureusement contradictoires dans leur méthode. L'un suppose de laisser libre cours au désir, désigné ici par le terme de passion, pour souligner le caractère passif de l'épreuve du désir. Un désir surgit en moi sous la forme d'un manque, un manque qui exige de moi, qui m'agite, qui m'inquiète et qui exige de moi un travail, qui exige que je trouve un objet capable de le satisfaire, et un objet qui me laisse espérer, que je me représente en tout cas au moment où j'éprouve le manque, que je me représente comme capable de combler ce manque en m'apportant un plaisir. Donc voilà ce qu'il s'agit de satisfaire d'un côté. De l'autre côté, il s'agit de modérer les désirs, c'est-à-dire face au creux du manque, plutôt que de le combler, eh bien on va chercher en quelque sorte à araser les bords de ce manque, à essayer de creuser de façon à ne plus éprouver de désir ou à éprouver un désir le moins intense possible, ou, on le verra un peu plus tard, le plus conforme aux désirs les plus faciles à satisfaire en raison de notre nature. Donc deux voies qu'on ne peut pas, absolument pas, suivre en même temps. On est face à un croisement, on va à gauche ou à droite, mais on ne peut pas aller sur les deux chemins en même temps. Le problème, c'est que chacun de ces deux chemins paraît mener au même endroit, à la félicité ou à la véritable satisfaction, une absence de souffrance dans le cas de la modération, une jouissance positive dans le cas de la satisfaction des passions. Et ce que Rousseau fait de magnifique dans ce texte, c'est que après avoir opposé de façon très classique ces deux manières d'accéder au bonheur, reprenant la tradition qui remonte à Épicure et au-delà au Platon du Gorgias, et à la métaphore des tonneaux percés ou des tonneaux sains qu'utilise Socrate pour désigner les deux vies. Les tonneaux sains, c'est la vie de modération où on passe beaucoup de temps à se préoccuper de l'état de son âme, de l'état de son esprit, de façon à n'avoir que très peu à désirer et à pouvoir du coup conserver les biens que l'on obtient le plus longtemps possible. Alors que Calliclès, l'interlocuteur fictif de Socrate, lui, défend une vie d'excès et de jouissance, donc les tonneaux percés, où certes, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de choses passent par ces tonneaux, mais beaucoup s'écoulent aussi par les trous des tonneaux, et du coup, il faut sans cesse re-remplir le tonneau. Donc c'est une tradition qui remonte à loin. La grande force de Rousseau ici, c'est de ne pas en rester là. C'est de montrer que chacune des deux voies est en réalité, possède en réalité, pardon, ce qui manque à l'autre. Et qu'en réalité, pour atteindre ce qu'il appelle félicité ou vrai bonheur, on ne peut pas choisir seulement une des deux voies. Il faudrait absolument avoir les deux en même temps. Ce qui manque à la voie de la modération, c'est précisément ce qu'il appelle la vivacité, l'intensité du plaisir, le caractère positif et pas seulement négatif de l'agrément et de la jouissance, tandis qu'à l'autre, la voie de la jouissance, il manque justement la durée, la stabilité que la modération des passions possède en propre.
Est-ce qu'il faut proposer une problématique aussi pour les textes, comme pour la dissertation? Comment est-ce qu'on la formulerait là?
Alors, je ne dirais pas problématique pour éviter la confusion avec la dissertation. Ouais. Souvent, les élèves pensent qu'il faut inventer un problème aussi à propos du texte. Donc souvent, ils vont chercher
le premier problème.
Ouais. Alors là, effectivement, c'est un texte dans lequel il est manifeste que les textes posent des problèmes. Donc parfois, on a affaire à des textes qui sont des réponses à des problèmes qu'ils ne posent pas. Là, pour le coup, on a la position d'un problème et la réponse. Donc il n'y a pas de doute, si problème il y a, c'est le problème du texte qu'il faut présenter.
Donc quelle est la meilleure façon de parvenir au bonheur?
Exactement. Ici, la question serait double. Je pense que de façon très explicite, c'est quel est le chemin entre ces deux voies qui permet le plus sûrement d'arriver au bonheur, et peut-être un problème sous-jacent qu'on commence à apercevoir avec la dernière idée que j'ai avancée à partir du texte, savoir qu'au fond, les deux seraient nécessaires pour atteindre le vrai bonheur. Donc, autre problème, le bonheur est-il seulement accessible? C'est-à-dire que même si on choisit une des deux voies parce qu'elle est légèrement supérieure à l'autre, est-ce qu'elles ne sont pas plutôt deux manières de rater le vrai bonheur plutôt que deux manières d'y parvenir? Donc, il y aurait cette problématique, ce problème sous-jacent au texte de Rousseau. Je pense qu'un correcteur qui tomberait sur une copie où le premier problème est posé, laquelle des deux voies entre l'excès et la modération faut-il choisir pour parvenir au bonheur, serait tout à fait satisfait. Mais si un candidat pouvait faire entendre qu'il a entendu lui aussi résonner un autre problème, une autre inquiétude chez Rousseau, je pense que là, ça devient une excellente copie.
Faudrait le dire dès le début, en mettre plein la vue au correcteur dès le premier paragraphe.
En tout cas, le dire assez vite, le formuler le plus clairement possible et ne pas attendre de le dire au détour d'une phrase, au milieu d'autre chose. On va voir qu'une des difficultés du commentaire de texte, c'est d'arriver à dire les choses au bon moment et d'arriver à les mettre en valeur. Et à ne pas confondre ce que le candidat dit que le texte dit, ce que le candidat aurait envie de dire à partir de ce que le texte lui dit. En gros, qu'est-ce que c'est qu'une explication du texte et qu'est-ce que c'est qu'une discussion? Donc il faut bien toujours mettre en contraste les deux.
Qu'est-ce qu'on fait? On explique et ensuite on discute, ou est-ce qu'on discute à mesure qu'on explique?
Alors, les deux méthodes sont admises, c'est-à-dire il n'y a pas de religion chez les correcteurs du baccalauréat, il y a plusieurs écoles évidemment, mais ça ne change rien. À titre personnel, je recommande à mes élèves de discuter au fur et à mesure qu'ils expliquent, parce que je trouve un petit peu artificiel une ultime partie de commentaire dans laquelle on met toutes ces remarques un peu hétéroclites. Ah oui, à la ligne 1, je suis pas d'accord, et puis à la ligne 15 non plus, ça n'a rien à voir, mais comme la seule unité de cette partie, c'est la discussion. Donc autant, après avoir parfaitement expliqué un moment du texte, montrait très précisément, sur la base de cette explication, ce qu'on pourrait dire de plus, de mieux ou d'autre sur cette partie-là. Alors moi, je recommande toujours de passer à la ligne et de mettre toutes les formes nécessaires pour que le correcteur ou la correctrice comprenne qu'on est en train de discuter. Parce que parfois, les élèves commencent à discuter dans le temps qu'ils expliquent, reprennent l'explication alors qu'ils ont déjà commencé à discuter. On ne sait plus, du coup, si c'est l'auteur qui parle, si c'est le candidat ou la candidate qui parle. Et ça, c'est très préjudiciable.
Là, vous parlez en tant que correcteur.
Exactement.
Vous dites aux élèves, pensez aux correcteurs qui ont 120 copies à corriger en très peu de temps, rendez leur service, adressez-vous à eux et allez à la ligne, écrivez bien. Ce qui est très important aussi, c'est ça?
C'est très important. Mettre en valeur les bonnes choses qu'il y a dans une copie, ça passe d'abord par ça. Par la bonne distinction, la bonne discrimination entre les différents moments du commentaire. Est-ce que je suis en train de commenter le texte? Est-ce que je suis en train de le discuter? Si le correcteur ne le comprend pas, c'est préjudiciable au candidat.
Pour cette première partie, est-ce qu'il y a vous avez envie de la discuter, justement, en tant que professeur candidat, ou est-ce qu'on passe à la deuxième partie?
Alors, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à discuter sur la position d'un problème, s'il est bien posé, à moins qu'un candidat parvienne à surmonter 2500 ans d'histoire de la philosophie pour identifier une troisième voie permettant d'accéder au bonheur. Je ne vois pas.
C'est là, un pour bon le
coup,
défi.
Pour le coup, c'est un défi, oui.
Moi, j'ai quand même une question pour vous. Oui. Dès la première ligne, on a le terme de félicité. Vous avez dit qu'il faut essayer de distinguer les concepts.
Oui.
On peut se dire, mais félicité, quelle est la différence entre la félicité, le bonheur, la joie? Est-ce que le terme de félicité importe? Est-ce que je peux lui substituer celui de bonheur,
Alors,
par exemple?
Effectivement, ici, je pense que félicité répond complètement à la notion de vrai bonheur. Donc, on voit qu'il y a des degrés, évidemment, dans le bonheur. Il faut surtout éviter un certain nombre de confusions, confondre, et ce texte, pour le coup, nous invite à ne surtout pas le faire, plaisir et bonheur.
C'est ça.
Le plaisir, c'est le sentiment agréable et fugace qui résulte de la satisfaction d'un désir, de la disparition d'un manque. Le bonheur, c'est un état durable de satisfaction constante et complète. Donc, peut-être que le bonheur n'est composé que de moments de plaisir, mais mis les uns à côté des autres. C'est en tout cas l'hypothèse que font ceux qui suivent la voie de la passion, la voie de la démesure, la voie de la jouissance. Mais en tout cas, conceptuellement, rien n'autorise à assimiler le plaisir en tant que tel au bonheur. Donc il faut vraiment faire très attention à ça. Félicité et vrai bonheur vont ensemble, mais comme un intensif du bonheur. Et on voit que Rousseau définit des bonheurs partiels, des bonheurs médians. C'est ce bonheur médian de la vie de modération qui n'est pas le vrai bonheur, mais qui est quand même au-delà de la succession des plaisirs.
Et voici la démonstration de ce que Rousseau affirme dans la deuxième partie de ce texte. Donc, le plaisir peut-il conduire au bonheur? Le bonheur est-il du côté de la satisfaction ou de la modération? Démonstration de Rousseau.
On ne saurait nier qu'un homme qui savoure à longs traits le plaisir et la volupté ne soit actuellement plus heureux et ne jouisse mieux des charmes de la vie que celui qui ne désire ni ne possède point. Deux choses me semblent pourtant rendre l'état du dernier préférable. En premier lieu, plus l'action du plaisir est vive, et moins elle a de durée, c'est un fait incontesté. On perd donc sur le temps ce qu'on gagne sur le sentiment. Jusqu'ici, tout serait compensé. Mais voici en quoi la chose n'est pas égale. C'est que le goût ardent des plaisirs agit d'une telle manière sur l'imagination qu'elle reste émue, même après l'effet du sentiment, et prolonge ainsi le désir plus loin que la possibilité de le satisfaire.
Comment être prêt le jour du bac? Comment rassurer vos enfants qui passent le bac? Comment écouter avec curiosité des propositions de corriger des épreuves susceptibles de tomber le jour du bac en écoutant France Culture, Les Chemins de la Philosophie notamment, mais aussi d'autres émissions de la chaîne, La Fabrique de l'Histoire, Entendez-vous l'écho, la compagnie des auteurs qui vous prépare pour le bac qui aura lieu d'ici 2 semaines. Aujourd'hui, nous commentons un texte de Rousseau, Mémoire à Monsieur de Mably, qui s'interroge sur les voies à suivre pour arriver à la félicité, c'est son terme, cette forme de bonheur suprême. Nous sommes en compagnie de Florian Nicodème, qui enseigne la philosophie au lycée Jacques de Cour, et qui vient donc commenter pour vous ce texte. Nous allons entendre la deuxième partie. Il y a donc 2 options qu'explore Rousseau, Florian Nicodème. Et la première, ce sont la première branche de l'alternative, est constituée par un argument en faveur de la jouissance. C'est vrai qu'on a du mal à condamner la jouissance, non?
Exactement. Surtout que Rousseau nous a proposé un protocole de résolution du problème, qui consiste à comparer les effets de l'une et de l'autre des deux voies. Évidemment, la première comparaison que l'on voit, c'est que le plaisir et la jouissance, c'est quelque chose qui est positif, c'est-à-dire qui n'est pas simplement l'absence de douleur, l'absence de tension dans l'âme ou dans le corps, c'est une jouissance positive. Et donc, le premier effet de la vie de jouissance qui la démarque de la vie de modération, c'est que l'une est dans la rétention, finalement dans la négativité, tandis que l'autre semble tout entière dans l'abandon, dans la positivité. Aucun effort ne semble nécessaire pour jouir, là où tous les efforts sont nécessaires pour se modérer, pour s'empêcher de désirer. Donc, à un instant T, actuellement, dit Rousseau, il n'y a aucun doute, celui qui, et la comparaison, la métaphore est ici assez savoureuse, celui qui savoure à longs traits le plaisir et la volupté, semble gagnant. Si l'on ne vivait qu'un instant, ou si l'on ne vit peut-être qu'un instant après l'autre, la vie de jouissance sera éternellement la plus agréable. Aucun doute là-dessus. Et on voit ici que Rousseau ne confond pas conceptuellement bonheur et plaisir. Il distingue bien plaisir et volupté, jouissance instantanée, du bonheur qui, lui, va supposer une forme de durée. Et on va voir que l'argument va ici se retourner progressivement au fur et à mesure que Rousseau introduit dans la comparaison des effets le facteur temps. Et on va voir l'évolution de cette comparaison quantitative entre les quantités de bonheur des deux voies qui va se retourner, s'égaliser d'abord, puis se retourner. Et c'est ce qui fait vraiment la beauté de ce texte, c'est que Rousseau commence par concéder quelque chose à la thèse opposée, ou à la réponse opposée à sa question, et il va retourner progressivement ses arguments contre cette thèse et parvenir du coup à mieux établir une deuxième thèse. Et j'ai ici envie de faire un petit parallèle avec la méthode de la dissertation, où on dit souvent qu'il faut présenter une thèse et son antithèse, mais où l'erreur, c'est évidemment de présenter une thèse et son antithèse de façon statique. Il existe 2 manières de répondre à cette question, point, sans dramatiser un peu le passage de l'une à l'autre. La première des 2 thèses qui doit être étudiée en dissertation, c'est la thèse la plus proche de la conscience ordinaire, de l'opinion commune. Et évidemment, la vie de jouissance, à première vue, présente toutes les caractéristiques pour être la vie de l'homme véritablement heureux. Et Rousseau ne le nie pas et il donne toutes ses chances à cette vie de jouissance en rappelant sa vivacité, son intensité, sa positivité. Mais il parvient à construire contre cette première thèse une deuxième thèse qui s'appuie sur la première, qui la retourne et qui est meilleure que la première. Et ça, c'est ce qu'il faudrait idéalement viser dans la dissertation. Rousseau n'avait pas appris la méthode de dissertation que nous enseignons, donc il n'y avait pas de troisième partie obligatoire à l'époque et du coup angoissante. Hein. Mais en tout cas, il met très très bien en scène ce retournement. Comment ? En s'appuyant sur une thèse qui n'est pas une thèse factice, hein, qui n'est pas une thèse artificielle, mais à laquelle on donne toutes ses chances, eh bien, on fait avancer sa propre pensée en allant plus loin.
Peut-être à ceux qui se demandent quelles sont les objections à avancer pour réfuter la thèse selon laquelle une vie de jouissance est une vie heureuse, on peut pousser jusqu'à l'extrême limite cette thèse-là et imaginer une vie qui serait choisie uniquement en fonction du plaisir gustatif. Imaginez deux hommes qui décident d'aller de quitter leur femme qui leur impose un régime alimentaire drastique et d'aller se baffrer dans des villes de province en France qui s'adonnent au plaisir de la chair sans limite, de manière excessive. Et bien peut-être qu'au bout d'un moment le plaisir se lasserait et que ce viendrait se substituer à cette débauche, bah une obligation qui en fait ne serait source de plutôt de déplaisir que de plaisir. C'est exactement le sujet du film de Bertrand Blier qui date de 76, qui s'appelle Calmos, avec Jean-Pierre Marielle dans le rôle de Paul et Jean Rochefort dans le rôle d'Albert. Écoutez.
Qu'est-ce que t'as ? Ça va pas ?
J'ai pas faim.
Mais moi non plus, j'ai pas faim. En voilà une excuse. Attention, Albert. Si tu commences à t'écouter, t'es bon pour retourner chez Geneviève. Et becter son cachou.
C'est barbouillé.
Eh ben, débarbouille-toi, la tuborg, c'est fait pour ça. Hein, y a rien de tel pour se remettre la bouche à neuf. Ça glisse.
Ça glisse, oui.
Ah, la bonne heure. Tiens, essaye les trucs salés, ça passe tout seul. Prends de la moutarde. Prends des cornichons, hein, allez. Un maximum d'épices, ça donne soif. Tu veux du saucisson à l'ail ?
Oh non.
Ben moi je vais en prendre. L'admirable cholestérol qu'on va se payer. Ça vaut quand même mieux que des barbituriques.
Ah ouais.
Quand on mange sain, sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication.
La vraie jouissance pour nous en tant qu'auditeurs, Florian Nicodème, c'est celle d'entendre une célébration de la nourriture excessive, grasse, pleine de cholestérol, alors que nous vivons dans une époque où au contraire on loue les charmes d'une alimentation bio modérée et saine, n'est-ce pas ?
Exactement, je pense que l'extrait est particulièrement parlant. Et les acteurs extraordinaires.
On a exactement l'illustration de la thèse de Rousseau, savoir que un plaisir fait croire que le bonheur est accessible, mais un plaisir qui ne s'arrête pas déjà n'est plus du plaisir et nous éloigne absolument du bonheur.
Effectivement, c'est la grande difficulté de toutes les philosophies hédonistes, c'est de comprendre comment le plaisir peut à la fois être un bien, voire le seul bien, et en même temps qu'il puisse y avoir certains plaisirs tristes, certains plaisirs désagréables, hein, et qu'en continuant à exercer cette capacité du corps humain à jouir, hein, eh bien on finit par l'anéantir. Alors, Épicure avait déjà trouvé une solution en introduisant un calcul des plaisirs, en disant qu'il faut toujours penser au moment du plaisir, non pas au présent seulement, mais au moyen et au long terme. C'est-à-dire qu'on peut, dans un certain cas, renoncer au plaisir immédiat si les conséquences à long terme ou à moyen terme de ce plaisir sont des souffrances. La maladie, le cholestérol, etc. Et à l'inverse, on peut choisir au présent une souffrance si elle nous épargne des souffrances futures ou si elle est la garante de plaisirs futurs. Par exemple, accepter de se faire opérer pour rester en bonne santé et du coup jouir plus longtemps du plaisir, c'est une solution qui est acceptable dans le cadre de l'hédonisme. Mais dans le texte, Rousseau, lui, a une lecture un petit peu différente, c'est que il n'y a absolument aucune, et c'est ce qui fait aussi la beauté de ce texte, moralisation dans ce texte. On ne condamne pas l'excès ou la démesure, comme c'est le cas chez Platon, comme c'est le cas dans la tradition morale philosophique qui critique l'intempérant ou l'incontinent, mais on a affaire ici à une pure mécanique, hein, c'est-à-dire que trop de jouissance finit par rendre insatisfait. Non pas écœuré, non pas mauvais, non pas méchant, mais insatisfait parce que l'imagination se met en branle avec le plaisir. Chaque plaisir réclame évidemment une satisfaction toujours plus intense, parce que entre un premier plaisir et le désir suivant, eh bien, l'imagination s'introduit, imagine des possibles. Donc l'imagination, cette faculté
oui,
de l'esprit...
Oui, là vous introduisez un nouveau concept.
Exactement, c'est un concept qui arrive dans le texte, hein, un peu plus loin. Mais l'imagination, cette faculté qui consiste à se rendre présent ce qui n'est plus présent ou ce qui n'est pas présent. Donc ça peut être la mémoire, se souvenir des plaisirs passés. Mais ça peut être aussi cette faculté qui dissocie les éléments de nos souvenirs et les recompose à l'infini. Rousseau dit dans La Nouvelle Héloïse que l'imagination, c'est la faculté du possible, hein, et c'est la faculté du possible pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que on peut, dans le cas d'un plaisir déjà éprouvé, s'imaginer que le prochain plaisir sera encore plus grand, ce qui fait qu'au moment où on obtient la satisfaction du désir, eh bien, la satisfaction n'est jamais à la hauteur du plaisir imaginé. Exactement. Et c'est ça qui fait, à terme, l'insatisfaction de la vie de jouissance. C'est qu'on finit toujours par désirer au-delà, non seulement de nos capacités, mais même des capacités de tout plaisir à nous rendre satisfaits. On ne peut plus jouir parce qu'on imagine trop de jouissance toujours à venir.
Mais Rousseau postule un grand rôle de l'imagination au sein de la jouissance, parce qu'on peut aussi imaginer une jouissance des sens sans imagination. Jouir du saucisson à l'ail qu'on est en train de manger, comme c'est le cas avec Philippe Noiret, jouir d'une émission de radio qu'on est en train de faire, qui, sans imagination. On peut jouir de la consommation d'un plaisir.
Effectivement, sauf que pour Rousseau, ça ne se fait jamais comme une simple métaphysique de tube, en quelque sorte, des vides hein, qui se remplissent hein, sans qu'aucune trace ne soit laissée. Ce qui est important de voir, c'est que chaque satisfaction de plaisir, chaque désir, chaque répétition de cette satisfaction ou du désir introduit quelque chose comme une nouvelle forme dans l'esprit et dans le corps, hein, une habitude hein, qui, sur le temps long, va nous orienter plutôt dans un sens ou plutôt dans l'autre. Et du coup, l'imagination intervient dans la constitution de ses habitudes. À force d'habituer à des jouissances intenses, on ne peut plus jouir sinon à un certain niveau d'intensité. Et pour maintenir ce niveau d'intensité, on est en quelque sorte contraint de s'imaginer des jouissances toujours plus grandes. Alors qu'à l'inverse, on le verra un peu plus tard, la modération, elle aussi, crée sa propre habitude, sa propre disposition finalement à se contenter de peu. C'est de moins en moins difficile de se contenter de peu, alors que c'est de plus en plus difficile d'imaginer une satisfaction à la hauteur.
Jouissance, imagination, bonheur sont des textes que l'élève sera amené à définir. On a aussi le terme de désir, peut-être distinguer et préciser le rôle que joue le désir dans cette et dans la jouissance et dans le bonheur, puisqu'il il fait partie du... Enfin, on le voit dans le raisonnement que propose Rousseau, hein, dans la dernière phrase, c'est que le guardant des plaisirs agit d'une telle manière sur l'imagination, vous l'avez dit, qu'elle reste émue même après l'effet du sentiment et prolonge ainsi le désir plus loin que la possibilité de le satisfaire. Mmh. Cette phrase est intéressante. Elle prolonge ainsi le désir plus loin que la possibilité de le satisfaire.
Alors, c'est-à-dire, il faut bien d'abord définir le concept de désir, le distinguer de la volonté, par exemple. Le désir, c'est une modalité de la volonté, mais ça n'est pas toute la volonté. Le désir, c'est une modalité qu'on peut qualifier de passive de la volonté, qui résulte hein, du manque, hein, qui résulte de l'exigence ressentie par l'individu de trouver une issue à quelque chose qui est de l'ordre du déplaisir et du désagrément. Mmh. Le désir inquiète, le désir agite, hein, le désir nous pousse à trouver une solution, et cette solution nous est souvent présentée en même temps que le manque. Lorsque j'ai faim, par exemple, hein, même si c'est une catégorie très spécifique de désir qu'on va appeler les besoins, mais lorsque j'ai faim, je sais à la fois que je souffre, hein, et je sais en même temps de quoi je souffre et ce qui pourrait m'apporter la satisfaction. Et du coup, la représentation de l'objet du désir, c'est aussi ce qui est une source de plaisir, puisque je vais imaginer, en même temps que je souffre, hein, le plaisir que j'aurai dans l'avenir, quand je me serai procuré l'objet en question. Et donc le désir, cette figure un peu intermédiaire entre anticipation du plaisir et déplaisir présent, qui fait que lorsque on ne trouve plus rien qui soit à la hauteur de l'anticipation, de deux choses l'une, ou bien on se contente de vivre dans des plaisirs imaginaires, c'est la solution que Rousseau évoque dans une lettre célèbre de la Nouvelle Héloïse, ou bien, comme c'est le cas dans ce texte, où cette solution n'a peut-être pas encore été imaginée par Rousseau, eh bien on est condamné à ne plus jamais trouver de quoi un objet à la hauteur finalement de notre désir. Il ne reste plus que le manque, et un manque d'autant plus amplifié qu'on imagine des plaisirs plus grands, à jamais impossibles à satisfaire.
D'où je conclus, écrit Rousseau, que la jouissance immodérée du plaisir est pour l'avenir un principe d'inquiétude.
Effectivement. Alors, principe d'inquiétude, c'est une expression un peu technique, un peu étrange, mais qu'il faut, je pense, comprendre de façon très étymologique. Le principe, c'est ce qui commence quelque chose. Et donc, un principe d'inquiétude, ça veut dire une prémisse, quelque chose qui laisse à penser qu'un jour, l'inquiétude viendra. Donc au commencement, la vie de jouissance, on l'a vu, est magnifique, mais en fait, le ver est dans le fruit. C'est-à-dire que la logique même de la jouissance est une logique qui est contradictoire avec elle-même et qui finit par se détruire. De même, inquiétude, ici, il faut le comprendre au sens étymologique, c'est l'absence de repos, l'absence de capacité à se stabiliser, c'est l'agitation permanente. Et donc, c'est cette souffrance qui va peu à peu augmenter, qui, dans le désir, est initialement liée au sentiment de manque, hein, mais qui, dans la vie de jouissance poussée à son terme, devient une condition permanente de l'être humain. Même quand il ne désire plus, eh bien, il est agité par cette inquiétude parce que le plaisir lui échappe sans cesse.
Est-ce que vous êtes prêt, élève professeur Florian Nicodème, à passer à la conclusion du texte ? Ou est-ce qu'il y a des choses à dire encore ?
Peut-être une petite chose hein, sur le premier argument de Rousseau. On est venu assez vite emporté par l'extrait du film de Blier qui est magnifique. On a oublié peut-être le premier argument qui est que Rousseau commence par, en gros, égaliser le score entre la vie de jouissance et la vie de modération en disant que, en faisant appel à ce qu'il appelle un fait incontesté, là peut-être que le candidat ou la candidate peut, dès qu'il voit incontesté, chercher à contester, ouais. Nouveau défi à remplir. Ce fait incontesté, c'est que le plaisir est d'autant plus bref qu'il est intense. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouir longtemps de façon intense, d'après Rousseau. Tout plaisir suffisamment intense s'arrête très très vite. Et donc pour lui, cela fait que ce que la vie de jouissance perd en durée, elle le gagne en intensité, tandis que ce que la vie de modération perd en intensité, elle le compense au bout d'un certain temps en durée. Et à mon avis, ça pose deux problèmes. D'abord, le problème de cette loi mathématique ou loi physique du plaisir. N'existe-t-il pas des plaisirs à la fois intenses et de longue durée ? On peut en douter, en tout cas. Et puis, un autre problème, c'est qu'est-ce qui nous garantit que la vie de modération nous apporte quand même quelque chose de l'ordre de l'intensité du plaisir. On a vu que c'est une vie qui est essentiellement dans la rétention, dans le retrait, dans la négativité, semble-t-il. On est en train de s'empêcher de désirer et non pas en train de s'apporter du plaisir. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on reste dans la positivité d'une forme très atténuée, mais positive quand même, de jouissance ? Et là, je pense que Rousseau n'a pas de réponse à cette question dans ce texte. Mais il existe de très très beaux textes dans les rêveries du promeneur solitaire, dans la cinquième de ses rêveries notamment, sur le sentiment d'existence. Le sentiment d'existence, c'est-à-dire la simple jouissance de ce qu'on est, de ses facultés, de son esprit, du présent, c'est quelque chose qui garantit qu'en l'absence même de désir, eh bien, on soit dans la positivité du plaisir. Un sentiment intense, vivace lui aussi, alors beaucoup plus atténué par rapport à la vie de débauche, ou à la vie de jouissance, mais toujours positif. Ce qui fait qu'avec le temps, si on se maintient dans un sentiment d'existence, c'est-à-dire pour Rousseau, si on reste le plus près possible de ce que la nature nous a donné en termes de désir et de faculté, eh bien, on est garanti, au fond, d'être toujours dans la positivité, même si on n'est pas dans la jouissance. Et donc, c'est ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, eh bien, ce qu'on a perdu en intensité, on le regagne par la durabilité.
Donc on pourrait expliquer Rousseau par Rousseau.
Exactement,
si on pourrait connaît même
essayer de réfuter Rousseau par Rousseau, puisqu'on a vu tout à l'heure que on a parlé du texte de la Nouvelle Héloïse, où il est dit au contraire que le seul véritable bonheur se trouve dans le moment du désir, dans le moment où on habille finalement l'objet du désir de toutes les beautés, de toutes les satisfactions à venir, ce qui fait que l'existant n'est jamais à la hauteur.
Avant d'en arriver à la conclusion, un autre extrait, pas un extrait de film cette fois, mais un extrait d'un YouTuber qui s'appelle Cyrus North, qui anime une chaîne de philosophie en ligne et qui propose avant le bac l'anti-sèche, où il propose des espèces de cours de philo que lui-même dispense. C'est un YouTuber extrêmement suivi et qui traite le sujet du désir justement, qui montre que la thèse, quand on désire, on est heureux, pose un problème qui est que dans ce cas, le bonheur ne relève que de l'imagination. Et il cite Rousseau, il semble expliquer le texte en réalité. Écoutez Florian Nicodème.
Jusqu'ici, le désir nous a semblé être un truc négatif, qu'il faut maîtriser, voire supprimer. Mais si on essayait de voir en lui une puissance créatrice, qui nous projette au-devant de nous-mêmes. C'est ce qu'a fait Rousseau, par exemple. Il dit dans Julie ou la Nouvelle Héloïse, « Malheur à qui n'a plus rien à désirer ». Cela veut dire que le bonheur vient non pas du fait d'obtenir ce qu'on désire, mais de l'action même de désirer. Désirer, c'est vrai, c'est ressentir un manque qui va créer de la peine. Mais ce manque, dû au désir, ce n'est pas forcément un problème pour l'homme. Au contraire, pour Rousseau, l'état de désirer se suffit à lui-même. Ça veut dire que le but du désir n'est pas d'obtenir l'objet qu'il convoite, mais de désirer. Tout simplement. Quand on désire, on est heureux. Car on voit devant nous un bonheur possible. Rousseau va même jusqu'à dire que le moment du désir provoque la jouissance et qu'il est encore plus fort que le moment où on l'assouvit. C'est notre imagination qui fait que l'on n'est heureux qu'avant d'être heureux. Quand on désire quelque chose, on l'idéalise. Quand tu penses à tes prochaines vacances, tu te dis que bah, ça va être la folie, piscine, soleil, soirée et tout. Et c'est là que ton bonheur est le plus fort. Car sur place, si tu compares le réel à ce que tu as imaginé, bah, t'es souvent déçu. Alors oui, hein, le désir est source de peine. Mais on peut pas échapper à la peine. Et en vrai, est-ce qu'on voudrait vraiment échapper? Parce que sans le sentiment de peine, on reconnaîtrait même pas les autres sentiments, comme la jouissance ou l'amour.
Pour réviser en vue du bac philo, Florian Nicodème, plusieurs conseils, non seulement suivre les cours, travailler les cours, écouter les émissions des Chemins de la Philosophie, surtout cette semaine.
C'est obligatoire.
Est-ce qu'on peut également regarder ce type de chaîne YouTube? Ça peut aider aux révisions, vous
Alors
pensez?
Alors absolument, tout ce qui fait penser, tout ce qui permet de brasser les concepts, de les faire travailler, est absolument utile. Je n'ai absolument aucune limite à ce niveau-là, ni YouTube, ni aucune forme de fiche synthèse. Les émissions des Chemins de la Philosophie, évidemment. Les cours, pourquoi pas? Enfin, vraiment,
ah, pourquoi
aucune
pas,
limite.
Oui, mais alors, est-ce qu'on va pas aller jusqu'à citer une chaîne YouTube dans la copie?
Non.
On peut citer un film, par exemple.
Bien sûr. Alors, disons qu'il faut bien distinguer ce qu'on appelle les références et ce qu'on peut appeler plutôt les illustrations ou les exemples. Hein. Pour les références, dans un commentaire de texte, la référence principale, c'est l'auteur du texte, c'est-à-dire le texte lui-même. Donc, on n'a pas besoin de citer qui que ce soit. Les idées, si elles sont vraies, si elles sont justes, si elles sont intéressantes, peuvent être évoquées. Les idées qu'on a entendues dans l'extrait à l'instant peuvent parfaitement être réutilisées dans une copie sans qu'il y ait besoin de citer de copyright ou de citer leur auteur. Ce ne sont pas des grandes thèses philosophiques. Hein. C'est une manière assez pédagogique et assez frappante d'expliquer une thèse de Rousseau. Par contre, sur les illustrations, alors là, il faut absolument que les candidats et les candidates se rassurent. Hein. L'illustration d'un point sera toujours possible avec un film, avec un roman, avec une expérience de la vie quotidienne, à condition évidemment qu'elle corresponde à l'idée qu'on cherche à illustrer et à condition que ce soit suffisamment détaillé pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Alors souvent les élèves se demandent, mais est-ce que j'ai le droit de citer un film qui est sorti dans les 10 dernières années?
Et un blockbuster américain.
Et un blockbuster américain avec des super-héros, etc. Moi, ça ne me pose aucun problème, mais je fais partie peut-être d'une génération de correcteurs qui a baigné aussi là-dedans, qui a l'impression que les élèves aujourd'hui vivent à nouveau les années 80 dans lesquelles j'ai grandi. Donc pour le coup, leurs références sont aussi les miennes, donc ça ne me pose pas de problème. Mais il faut s'astreindre dans ces cas-là à une discipline qui est de présenter de façon la plus objective possible, ce dont il est question.
Et d'argumenter, surtout.
Exactement. C'est-à-dire d'essayer de montrer très précisément pourquoi dans l'histoire ou dans l'extrait qu'on a sélectionné, il y a un lien avec la thèse. Évidemment, le name-dropping ou le fait d'évoquer des films pour le plaisir du défi d'avoir évoqué le dernier Avengers en copie de philosophie, ça n'apporte rien.
En revanche, évoquer le dernier Avengers, argument à l'appui, démonstration à l'appui, dans le cadre d'une démonstration brillante,
bien sûr, bien sûr, le dernier Avengers et le personnage de Thanos, par exemple, pourraient ici nous aider pour ce texte.
Il est temps de conclure ce texte avec Rousseau. Voici donc les dernières lignes du texte que nous commentons aujourd'hui.
D'où je conclus que la jouissance immodérée du plaisir est pour l'avenir un principe d'inquiétude. Au contraire, les peines d'un homme qui, sans avoir joui, n'a que quelques désirs à combattre, diminuent à mesure qu'il gagne du temps. Et la longue tranquillité de l'âme lui donne plus de force pour la conserver toujours. Son bonheur augmente à mesure que celui de l'autre diminue.
L'avantage, Florian Nicodème, c'est que ici Rousseau conclut pour nous, c'est-à-dire qu'il le dit. Donc on ne peut pas se tromper, on ne peut pas rater la conclusion du texte.
Effectivement, ça nous rappelle que l'une des choses à faire sur un texte, hein, dès qu'on commence à le travailler, c'est d'essayer de repérer tous ces indices de construction, tous ces connecteurs logiques qui indiquent comment les idées s'articulent les unes avec les autres. Et certains textes sont particulièrement explicites. Ici, Rousseau nous le fait pour nous. C'est magnifique. Mmh. Voilà, vous n'aurez pas toujours cette chance, chère candidate, cher candidat.
On peut le remercier. Alors qu'est-ce qu'on fait du coup, puisque tout est dit? Que nous reste-t-il à faire en tant que candidat?
Puisque tout est dit,
Rousseau conclut, tout est clair.
Exactement, il reste à essayer d'exposer en quoi cette conclusion découle bien de ce qui précède. On voit qu'on avait laissé les choses au point où les deux vies semblaient se rejoindre et la deuxième vie passait devant l'autre. Donc la vie de modération passait d'une courte tête devant la vie de jouissance. Eh bien, le dernier temps du texte nous montre finalement que le mouvement va se poursuivre. Il ne va pas y avoir un retour, un comeback de la vie de jouissance au dernier moment. Au contraire, les trajectoires qui sont dessinées sont des trajectoires dont Rousseau montre qu'elles sont désormais inéluctables. La vie de jouissance va continuer à dégénérer et à s'étioler en plaisir triste, tandis que la vie de modération va continuer à se consolider. Et Rousseau va ajouter un dernier argument qui va dans le sens de la vie de modération, c'est la solidification progressive de cette vie de modération par la disparition des difficultés qu'il y a à se modérer. Plus on avance dans le temps, plus on s'habitue à se modérer, et plus ça devient facile de se modérer. Donc on peut faire deux lectures cette idée. Soit l'idée finalement assez classique de l'habitude. L'habitude, c'est ce qui crée une disposition quasiment spontanée à faire quelque chose qu'on a répété plusieurs fois, quand bien même c'est quelque chose qui n'était pas inné, pas naturel, mais qui est acquis dans la discipline. Donc je pense que Rousseau pense ici au mécanisme de l'habitude qui nous constitue une seconde nature plus modérée que la première. Mais je pense que Rousseau a aussi en tête le cours de la vie humaine, le fait que la vie de jouissance et l'intensité des désirs s'étiolent aussi au fur et à mesure qu'on prend de l'âge. Perspective un peu plus triste, perspective un peu plus raciste aussi, mais étonnante chez un jeune homme de 28 ans qui, lui, mène justement une vie de l'intensité des désirs. Au moment où il écrit ce texte, il tombe amoureux de Madame de Mably et il vit une vie de désir intense. 28 ans,
et donc la
pas
mère
encore
des enfants auxquels il est censé enseigner.
Voilà, exactement. La femme de Monsieur de Mably à qui il adresse ce mémoire. C'est un petit crush, comme on dit aujourd'hui, un tout petit flirt qui n'aura pas de suite. Mais Rousseau dit, à propos de Madame de Mably, comme mon habitude à ce moment-là, je tombais amoureux d'elle. Donc ce qui signifie quand même
c'était
que...
C'était déjà une habitude.
Voilà, c'était déjà une habitude.
Donc en fait, il prêche l'inverse de ce qu'il fait, si je vous comprends bien.
Alors, c'est pas le moindre des paradoxes de Rousseau d'avoir toujours eu à s'appliquer à lui-même ses propres conseils, mais c'est aussi une de ses beautés. C'est-à-dire que quand on reprend ses textes autobiographiques, on s'aperçoit que les décisions qu'il prend ne sont pas des grandes paroles en l'air, c'est qu'il a vraiment essayé de construire, de donner de la force à ces quelques conseils qui se donnent ici à la fin. Ça semble être les conseils un peu rigides et un peu raides d'un jeune homme un peu épris de netteté, c'est-à-dire la modération, la modération, la modération. Mais on s'aperçoit que c'est une intuition qu'il va suivre tout le reste de sa vie. Si on reprend maintenant la grande thèse de Rousseau, à savoir l'idée que la société pervertit l'homme, que l'homme de l'état civil, l'état de vie en société, est un être malheureux, perdu, alors que l'homme de l'état de nature est un être qui représente une forme d'idéal, quoique fictive, eh bien on s'aperçoit que le rapport entre jouissance et modération s'y retrouve à nouveau. C'est-à-dire que l'homme de l'état de nature est un idéal parce qu'il est tout entier en lui-même, tout entier dans des désirs qui sont limités et dans des désirs qu'il a parfaitement la capacité de satisfaire. Et ça restera toujours un idéal pour Rousseau. C'est-à-dire qu'il s'agit d'atteindre dans l'état civil cette capacité de l'homme de l'état de nature à n'avoir jamais de désir au-delà de ses capacités et en même temps d'aller toujours au bout des désirs qui lui sont naturels. Donc il y a à la fois la recherche d'une intensité du désir, désirer tout ce qu'un être humain peut désirer par nature et être toujours capable de le satisfaire. À l'inverse, l'homme de l'état civil, c'est l'homme qui enferme son bonheur, sa satisfaction et même ses plaisirs dans le regard de l'autre, dans l'évaluation, dans la comparaison, dans les plaisirs factices de la vie en société. Et lui, Rousseau, dit qu'il vit toujours en dehors de lui-même, connaissant certes des plaisirs, mais jamais de bonheur. Donc la vie de jouissance, position entre vie de jouissance et vie de modération, se retrouve dans l'opposition entre état de nature et état civil, entre homme naturel et homme civil, d'une façon que je trouve assez remarquable et qui montre que Rousseau a remis ses concepts sur le métier toute sa vie.
Ce qui est aussi assez remarquable, c'est la permanence de la valorisation de la modération entre un texte de 1740 et aujourd'hui. On ne parle que de modération également en termes de plaisir. L'excès est toujours mal vu. Ici, Rousseau argumente en faveur de la modération. C'est étonnant de voir que ça persiste en fait.
Effectivement. Alors, il y a modération et modération, évidemment. C'est-à-dire que je pense qu'on pourrait défendre quand même le principe d'une libération de la jouissance contre une modération normée, hygiéniste ou angoissante, une culture triste de la modération. C'est pas ce que Rousseau nous invite à penser. Dans ce texte, je pense qu'il n'est pas encore au point où il arrive à penser ce qu'il y a de jouissance dans la modération, mais je pense que c'est ça qu'il faut viser. C'est-à-dire que la jouissance triste de la modération triste, c'est le fait d'avoir peur de mourir et de ne pas avoir de plaisir parce que on veut rester en bonne santé, parce que on veut se maintenir le plus longtemps possible vivant, même si c'est pour éprouver des plaisirs faibles. Et c'est une des critiques classiques que Calliclès, dans le Gorgias de Platon, fait à la vie de Socrate. La vie de modération, Socrate, c'est celle d'un cadavre ou d'une pierre. C'est pas celle d'un être humain. Et je pense que ce que Rousseau nous amène à penser au-delà de ce texte, c'est chercher une positivité dans la modération et une capacité à jouir de tout son être, comme il le dit dans l'Émile, c'est-à-dire jouir de toutes ses capacités, mais savoir rester dans ce qu'on est capable d'endurer en tant qu'être humain. Ne pas aller dans l'au-delà de la jouissance permanente, mais maintenir l'intensité dans les limites de ce que peut l'être humain.
Voilà, et donc pas parce que ce serait moral, mais parce que même en termes de jouissance,
exactement,
c'est plus efficace.
Exactement. Alors, il y a un côté moralisateur dans la vie de modération, mais je pense que c'est pas ce qui préoccupe Rousseau en premier. Rousseau pense que le bonheur, c'est la fin absolue de tout être sensible, et justement en tant qu'il est sensible. Donc il faut se servir de ses sens. Une capacité, une faculté qui est laissée inemployée, nous fait rester, dit Rousseau, en deçà de notre puissance. Et il y a l'ambition chez Rousseau que l'être humain soit parfaitement capable, un homme qui soit dans toute la puissance de ses capacités. Et je pense que c'est ça, la positivité qu'il manque parfois aux restrictions et aux modérations qui nous sont imposées partout. Se modérer, mais pourquoi ?
On pourrait conclure de cette façon, en posant cette question.
On pourrait, je pense, oui. Je pense qu'il faut bien voir la dimension socialement assez préoccupante de cette question. C'est-à-dire que d'un côté, si on défend la vie de jouissance, on se met aussi, bien sûr, au service d'une certaine forme de liberté par rapport au carcan d'une modération trop normée, mais on se met aussi au service de l'impératif de la jouissance et de la consommation, qui, voilà, ne nous libère pas pour autant. Et à l'inverse, se mettre au service de la modération sans trouver cette positivité, finalement, c'est se mettre aussi au service d'une vie triste, angoissée et qui vit dans la peur de la mort.
La modération, ce serait peut-être savoir faire la fête en évitant la fête de trop.
Tu sais, tu sais, ce soir j'ai vu tous les joyaux de la pop. J'ai même bu à outrance toute l'absinthe de tes potes. J'ai côtoyé du rare nymphe, pris des rails en avance dans des salles bien trop noires, sans lueur d'élégance. Davantage j'ai serré mes mâchoires lamentables et zélé des amants, des garçons de passage que j'ai tenté d'approcher, mais que ma mascarade a fait fuir lentement par sa froide en maussade. Alors j'ai rempli ma panse avec de vives urgences, autant vives que ivres sur la piste de danse. J'ai ajusté mes pansements pour que mes saignements soient beaucoup moins apparents sur la piste d'argent. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite et faite et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. Tu sais, ce soir j'ai lu dans...
Un grand merci à vous, Florian Nicodème, d'être venu plancher pour nous et pour les auditeurs en direct ce matin en vue de l'épreuve Bac Philo.
Je vous remercie, ça m'a permis d'exorciser mes rêves de Bac. Hein.
Bon, vous aurez, je suis sûr que vous avez une très bonne note au Bac, non ?
Je me souviens.
Bon, ça n'appartient plus aux auditeurs. En tout cas, vos élèves sont bien chanceux et bon courage pour cette dernière ligne droite. On rassure
merci
tout le monde. Faut d'abord, maintenant, c'est un travail de coach que vous faites, non ?
Exactement.
Quelques semaines
de la gestion psychologique, quelques concepts quand même encore.
Bon, on salue vos élèves au lycée Jacques de Cour. Vous pouvez continuer à préparer le bac sur France Culture aujourd'hui et toute la semaine à 14h. Entendez-vous l'écho avec Maëlys Bessery. 15h, la compagnie des auteurs Mathieu Garriou-Lagrange. 16h, la méthode scientifique de Nicolas Martin. Autant d'émissions qui vous aident à préparer le bac. Mais oui, sur France Culture.
Moi, je l'ai fait, défaite et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. Danse.
Pour éviter la fête de trop, on continue les révisions sur France Culture, les chemins de la philosophie spéciale Bac Philo. C'est l'heure de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Dédie de Préto au journal de la philo. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Alors vous aussi, vous volez au secours des élèves de terminale.
Mais oui, sur la fameuse question des exemples à convoquer ou pas dans une dissertation. Chaque année revient cette interrogation. Qu'est-ce qu'un bon exemple ? Y en a-t-il des rédhibitoires ? À quoi servent-ils ? Loin d'être le premier souci des élèves, si je me souviens bien de ma terminale, les exemples semblent plutôt accessoires et lire Proust semble aussi disproportionné pour en avoir un seul à convoquer dans une copie. Et pourtant, il en faut bien des exemples. Voici donc quelques exemples d'exemples à usage multiple, facile à retenir et à utiliser surtout.
Wow. As-tu déjà fait un rêve qui avait l'air plus vrai que la réalité ? Si tu étais incapable de sortir d'un de ces rêves, comment ferais-tu la différence entre le monde du rêve et le monde réel ? Qu'est-ce qui m'arrive ?
La réponse est là-bas, Néo. C'est la question qui nous anime tous.
C'est quoi la matrice ? La matrice est le monde qu'ils ont placé devant ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité ?
Matrix des Wachowski. Alors d'accord, ce film a déjà presque 20 ans. Mais c'est justement un bon argument. 20 ans, ça en fait un film assez vieux ou classique pour être valable. Ça lui a aussi laissé le temps de faire l'objet de plusieurs analyses de philosophes. Je recommande l'ouvrage collectif Matrix, machine philosophique, qui était paru aux éditions Ellipse avec les contributions d'Elie Düring ou Alain Badiou, entre autres. Et peut-être en plus, chers élèves, l'avez-vous même déjà vu. Sinon, le premier volet de la saga ne dure que 130 minutes. Valable, philosophiquement, validé par les profs, plutôt sympathique à regarder, surtout facile à mobiliser, ce sont les arguments pour que vos exemples marquent des points. Et à cet égard, Matrix pourrait être le film idéal. Conscience, perception, mais aussi vérité, théorie, expérience ou encore liberté, société, état. Ce film a pour lui de traverser au moins 6 notions du programme et de poser les questions typiques d'un sujet de dissertation comme « Vit-on dans un rêve ? La vérité existe-t-elle ? » Ou encore « Y a-t-il une contradiction entre liberté et déterminisme ?»
Drug addicts and drug dealers.
Get up! Get down!
But you start to follow the money, and you don't know where it's going to take you.
You think I have time to ask a man why he giving me money or where he gets his money from?
The game is out there, and it's either play or get played.
Autre type d'exemple, après le film, la série. Alors, beaucoup plus compliqué comme type d'exemple puisqu'il y a autant de séries que de goûts et que vous pouvez précisément citer celles que le correcteur aura détestées. Alors, pour éviter des imprudences, il y a quand même deux séries labellisées Éducation nationale, The Wire, dont on vient d'entendre un extrait, et puis un beaucoup plus récent.
I, Eddard, the House Stark, Lord of Winterfell and Warden of the North, sentence you to die.
I saw what I saw. I saw in White Walkers.
You understand why I did it?
He was a deserter.
The man who passes the sentence.
Game of Thrones, le ou la correcteur aura beau détester les séries, il ou elle aura forcément vu ou entendu parler d'une de ces deux séries, The Wire et Game of Thrones sont en effet les séries à convoquer en cas de sujet politique ou culture, et il y en a forcément un. L'une est enseignée à Harvard, l'autre est vantée par des chefs politiques, l'une et l'autre parce qu'elles soulignent inégalité sociale et conquête du pouvoir, permettent donc d'éclairer des sujets comme la justice est-elle seulement une question de loi, la politique est-elle l'affaire de tous, ou encore le pouvoir doit-il se conquérir. Alors, autre exemple, enfin, David Bowie, c'est le chanteur reconnu par les professeurs de philo, enfin, si je m'en tiens aux essais parus dernièrement sur les chanteurs, plus, en tout cas, que la variété française type Claude François ou le gangsta rap. Avec Bowie et ses chansons se posent les questions sur le sujet, l'art ou la morale. Qui suis-je ? On sait que Bowie s'est inventé des identités multiples. Où ? L'artiste est-il maître de son œuvre ? On sait aussi qu'il a mis en scène la naissance et la mort de ses personnages. Alors voilà, pour conclure, je dirais que les exemples ne tombent jamais du ciel et que les profs qui disent que tout exemple, tant qu'il est bien défendu, est bon, eh bien je n'y crois pas du tout. Truffaut fera toujours meilleur effet que Fast and Furious, mais prévoir, tout en se détendant, en regardant des films, en écoutant de la musique, un exemple par notion, ou pour plusieurs notions par exemple, peut toujours sauver de la panique le jour J.
Florian Nicodème, défendez-vous.
Je me défends en disant tout simplement que il faut savoir panacher les exemples, effectivement. Alors que Truffaut fasse meilleur effet, je n'en suis pas certain. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une espèce d'interruption, de suspension de la lecture quand on voit écrit et souligné l'enfant sauvage. On se dit, oh, encore l'enfant sauvage. Alors qu'un exemple original, au moins, va nous réveiller. Donc peut-être qu'il faut tempérer les deux, mettre un peu de classique, un peu de Fast and Furious. Bah,
Alors quelles sont les références cinématographiques que vous voyez revenir d'année en année de manière systématique dans les copies?
Et vous n'en pouvez
alors,
plus.
Ouais. Alors celles dont, évidemment, c'est tous les films classiques dont on sait qu'ils ont été visionnés en séquence dans les classes. Alors L'Enfant Sauvage de Truffaut, je pense, c'est vraiment tout en haut. Into the Wild est en train de conquérir sa place aussi dans le tiercé gagnant.
Je pense, je crois qu'on n'a pas fait une émission spéciale Bac Philo depuis 10 ans sans diffuser du Into the Wild.
Voilà, enfin, Matrix est très, très, très demandé aussi. Voilà, par les élèves qui commencent à avoir identifié le filon, effectivement, et même par les enseignants qui en redemandent. Hein,
Oui, c'est ça, c'est dans
alors
les deux sens.
Quelques références hein, que je suggère aux élèves, peut-être Blade Runner. Voilà, c'est encore, hein, je pense, encore dans le top 10, mais c'est assez original encore.
C'est noté, merci pour ces idées d'exemple. Merci Géraldine pour cette chronique. Vous nous conseillez des lectures?
Mais alors, j'ai cité Matrix, Machine philosophique. Le filon est encore un peu bon à exploiter. Donc on le trouve aux éditions, cet ouvrage collectif d'Elie During, on le trouve aux éditions Ellipse. Marianne Chaillant a fait un livre sur Game of Thrones, une métaphysique des meurtres aux éditions du Passeur. The Wire, l'Amérique sur écoute, c'est aux éditions La Découverte. Et puis, sur David Bowie, j'adore ce livre de Simon Crichley, Philosophie intime, c'est aux éditions de La Découverte aussi.
D'ailleurs, l'émission avec Marianne Chaillant convoquait beaucoup d'exemples à utiliser le jour du bac. Je conseille les auditeurs de la réécouter. Elle était au micro des Chemins de la philosophie il y a quelques mois. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la philo. Un grand merci à David Pargamin qui a préparé cette émission avec Marianne Chassor, Maud Markiewicz, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Milena Elik qui est à la réalisation cette semaine, Georges Kless à la lecture des textes, Jean Frédérics à la prise de son, Jean Frédérics qui a ses souvenirs de Bac Philo qui nous racontera peut-être demain. Demain en tout cas, on se retrouve pour la suite de cette série sur les émissions spéciales Bac Philo. Une dissertation sera au programme « Peut-on vivre sans foi ni loi ?» Un sujet susceptible de tomber le jour du bac dans quelques jours. Et ce sera le professeur de philosophie au lycée Sonny Delaunay de Cesson, Julien Chanalune, qui viendra vous proposer sa correction. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la philosophie. Vous pouvez la réécouter en ligne et surtout la podcaster, la télécharger, ainsi que toutes celles de cette série spéciale Bac Philo pour les écouter où vous voulez, quand vous voulez, jusqu'à la veille de l'épreuve. Vous verrez, c'est très utile pour préparer. On se retrouve demain à 10h, donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.